Merci François pour cet sujet qui a beaucoup et n'est pas sans intérêt, bien entendu. Ce sont des choses que tout le monde sait, mais que beaucoup de gens n'arrivent pas à chiffrer. Et ça montre aussi les difficultés d'une recherche sur Internet. Parce que ça, bon, François, il est capable de passer du mois pour montrer que le docteur Machin est particulièrement corrompu. Mais en dehors de ça, il faut savoir que toute recherche sur Internet peut se heurter à ce genre de difficultés et que c'est un outil qui, de ce fait, donne de la réalité, des réalités, un aspect très volontiers biaisé, volontairement parfois, involontairement souvent, du fait de l'inexpérience ou de l'incapacité de l'utilisateur de vraiment aller au fond des choses, c'est un élément dont il y a trop. Il nous reste là quelques minutes pour réengager la discussion éventuellement sur les problèmes de la télémédecine, mais sur les problèmes aussi de la recherche d'informations, puisque là on est revenu sur cet aspect des choses. Qui souhaite intervenir?
Merci. La télémédecine, on a vu que le lien entre les professionnels et les patients, ça peut être intéressant, mais c'est sur qu'est-ce qu'on fait des données, de tout ce qu'on rentre là-dedans, de toutes les cas. Je trouve qu'il faut vraiment arriver à dissocier tout ça, quoi, parce que c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir communiquer à distance ou entre médecins, ou avec l'infirmière qui est à distance, avec le patient, et tout ça. Ça, je pense que bon. Sauf, est-ce que c'est enregistré ça ou c'est juste un moyen de communication qui est rompu derrière? Moi, j'en sais rien, je ne comprends rien du tout. Par contre, ce qu'on rentre dans l'informatique, on fait beaucoup de soucis. Comment on va l'utiliser? Quelles sont les références? Tous ces trucs de formater le vivant et la complexité dans des cases, des codes informatiques, moi, je trouve ça hyper dangereux. Quoi. Après, ça peut être intéressant aussi pour accéder à l'information médicale, mais encore, les bases de données, qui c'est qui va les remplir? Qu'est-ce qu'on va y mettre comme étude? Les bonnes ou mauvaises? Il y a toujours un biais.
Juste pour faire un lien, j'ai une équipe personnelle en fait, en rebondissant sur Salomon qui toujours fait référence à DNDI et un commentaire que Jean-Pierre vient de dire, en fait, il n'y a aucun expert qui n'a pas de conflit d'intérêt en fait.
Voilà. Si, il y en a.
Mais c'est juste pour terminer. Juste pour terminer.
C'est pas dans la base.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est voilà, une question très minoritaire et est-ce que la réflexion aussi ne devrait pas s'accompagner de autant changer d'industrie que de changer le modèle économique de l'industrie, voilà.
Moi, je pose la question, est-ce que dans bien des domaines, on a vraiment besoin d'un expert? Quand on a de la littérature de qualité, des essais bien conduits, on n'a pas besoin d'être rhumatologue pour apprécier les stratégies thérapeutiques dans la polyarthrite rhumatoïde. Je ne suis pas rhumatologue, je suis pharmacien. Je considère qu'on n'a pas besoin d'être expert en rhumatologie, dans quel domaine. On peut faire des revues générales et évaluer la qualité des travaux.
Oui, la notion de confidentialité qui a remplacé la notion de secret médical est abordée assez souvent comme le dernier rempart justifié à l'évolution technologique, à la diffusion et à la distance. La télé, je ne sais pas quoi. Bref, c'est la notion de distance. Il y a des craintes par ignorance. Tout simplement parce qu'on ne sait pas. Et il y a des dispositifs sécurisés et garanties sécurisés qui sont coûteux, qui sont organisés par les ARS en particulier et les GCS, les groupements de coopération sanitaire e-santé, qui sont en train de se développer dans chaque région en France, avec des réseaux particuliers et des réseaux absolument dédiés. Ce sont des réseaux dédiés, c'est de la messagerie sécurisée. Donc il faut savoir que les technologies confidentielles, vous avez compris, existe. Et que si on veut s'en faire ce rempart de défiance ou de méfiance, il faut bien analyser encore nos pratiques et là nos critiques, à savoir que dans toutes les données que l'on traite, que ce soit en cabinet médical, en groupe, en hôpital, la confidentialité est complètement bafouée. Mais bafouée à un point consternant. Et moi je vois des soldats, médecins, lever le bras contre « je ne veux pas partager mes données » et qui m'envoie un fax qui arrive dans un secrétariat avec des trucs pas possibles et qui utilise leur smartphone. Et là c'est terriblement, c'est complètement paradoxal. Donc les systèmes technologiques de confidentialité existent.
Il y a des vrais risques, alors simplement en Europe, la pointe, c'est que les Européens ont réagi, c'est les 23 pays, ce que vous avez fait, ont réagi à une réglementation qui s'appelle la RGPD, qui va devenir obligatoire en Europe le 21 mai. Et sur la RGPD, en gros, c'était un peu d'abord d'éviter que nos données très personnelles partent dans les serveurs ou ailleurs et soient exploitées, parce que c'est déjà le cas, je vais y revenir. Et deuxièmement, ça veut dire que la pénalité, c'est jusqu'à 3 ou 4% du chiffre d'affaires total mondial d'une entreprise qui serait prise. Donc il y a eu une réaction au niveau européen pour essayer de ne pas se faire complètement profiler, etc. Maintenant, même si on a ça, les risques vont exister. Je vais juste revenir, c'est quels sont les risques qu'on pose si on échange mal d'informations, si on n'est pas transparent sur des indicateurs de qualité, si on ne sait pas faire d'évidence prédictive. Quand un gars très curieux à Boston s'est fait exclure de l'ordre des médecins en 1890, tous les matins, s'appelait Coleman, a dit voilà les patients qui sont morts dans l'hôpital, etc. Il s'est déjà fait huer à l'époque. Bon. Donc le dossier médical, ces indicateurs de qualité, ils ont une fonction en transparence. Et je voulais dire, c'est que même sans sous-estimer la notion de confidentialité, parce qu'il y a une prise de conscience dans la population générale qui est en train de se faire grâce à Facebook, parce qu'en même temps, ils vous disent, gardez mes données confidentielles médicales, mais en même temps, ils mettent tout OK. Bon. Le problème sur une stratégie très défensive des médecins par rapport au secret médical, ça va avoir l'effet exactement inverse. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que vous avez à cacher ? Vos actes ne sont pas pertinents ou les taux de la réhospitalisation dans votre établissement à 30 jours avec 40%. Donc il y a une très très grosse demande. Non, ce n'est pas le serment d'Hippocrate. Il y a une très grosse demande à la fois d'avoir les patients, ils ont envie d'avoir leur dossier médical. Deux, ils ont envie d'avoir des indicateurs de qualité pour savoir ce qui se passe. Donc je peux dire que la demande est forte.
Les patients, ils ont toujours.
Donc j'entends pas mal de choses sur Internet, des centres de formation, des dossiers de santé. J'ai mis en tête justement un questionnement sur le carnet de santé de l'ancien. Qu'est-ce que j'ai pris sur le carnet de santé? Et du coup, ça rebondit sur le dossier médical informatisé. J'ai un centre où je suis informatisée, un autre centre où je ne suis pas. Donc c'est vrai qu'on est entre deux mondes. Mais par contre, moi, je reçois des patients connectés qui arrivent avec leur diagnostic, leur surdiagnostic, leur traitement. Donc quelle est notre position, nous, face à cette demande grandissante? On ne peut pas le nier, on ne peut pas dire non, il n'y a pas de site internet qui pose des diagnostics où on peut avoir des informations. Doctissimo m'a tué, enfin, ça existe. C'est un site où on recense pas mal de choses. Donc moi, je me suis intéressée à ça, j'ai été sur les forums pour voir justement, pour m'intéresser et pour pouvoir répondre à mes patients. Parce qu'ils recherchent une information aussi. On ne peut pas la nier. Moi, en tant que jeune médecin, je cherche des informations sur internet. Effectivement, il y a des certificats de sites. J'explique aux patients. Voilà, moi je me pose la question justement. On essaie d'orienter aussi les patients. Maintenant, moi, en tant que médecin connecté comme tout le monde, j'ai mon smartphone, j'ai des patients qui surfent sur internet en consultation pour rechercher leur biologie.
Exact.
Parce qu'ils reçoivent sur leur boîte mail leur biologie. Donc on ne peut pas faire fi de tout ça et se dire non, on a du codex invité. Donc, je pense que c'est à nous d'avancer et effectivement de garder notre sens critique. Moi, je pense que c'est plus sur ça que je vais agir. En tout cas, dans la pratique.
Il va intervenir. On va te donner la parole.
Moi, je voulais simplement dire une chose, c'est que toute cette démarche et votre intervention à l'instant le montre encore.
On assiste à une déshumanisation considérable
de la société et de la médecine en particulier. Et ce que disait Sandrine Deloche dans le domaine de la psychiatrie,
c'est tout aussi vrai dans le
domaine de la médecine générale, et mais ça devrait
être dans tous les domaines de la médecine la plus
spécialisée d'organes. C'est-à-dire la tant que reste un lien interhumain entre quelqu'un qui souffre et demande de l'aide et quelqu'un qui se propose de l'écouter, de le comprendre et de l'aider, ça va bien. Et on est en train de perdre. Et on est comparable, on est aussi complice de cette affaire en nous précipitant dans la modernité. Qui va gagner là-dedans ? Les malades ?
Sûrement pas. La société, sûrement pas. Alors, évidemment, ça va faire
la fortune de toute une série de pratiques dont certaines sont peut-être utiles pour la santé du corps, comme le yoga, les médecines plus ou moins parallèles, les herboristeries diverses, les charlatans de tout poil. Pourquoi ? Parce qu'eux vont faire semblant d'avoir cette relation. Ils ne l'auront pas forcément très bien, mais ils vont dire « mon boulot, c'est ça, parce que moi, je m'intéresse à vous ». Et le jour où la médecine cesse de s'intéresser à vous, aux patients, être à l'écoute, et bien, c'est ce jour-là, c'est toute la société qui perd.
Alors, je voudrais intervenir sur les problèmes de confidentialité de données. Et, je voudrais dire que ce qu'a dit Simon est très juste. J'ai assisté à une heure de grande écoute sur BFM TV à un reportage sur la télémédecine. C'est notre vie, le matin. Et alors, il faut bien préciser que c'est dans le cadre de la désertification médicale et c'est uniquement pour des patients qui ne peuvent pas se déplacer à la rencontre d'un médecin. Eh bien, j'ai vu les systèmes, quand on le veut, on le peut. Hein. Le patient ne pouvait accéder aux éléments à l'intérieur d'une cabine qu'en mettant sa carte vitale et en s'authentifiant avec sa carte vitale, et le médecin ne pouvait se loguer qu'avec sa carte professionnelle de santé. Alors, moi, je suis quand même surpris pour votre hôpital. Je pense que c'est votre hôpital qui est en tort. Il faudrait que vous plaigniez à la CNIL, je ne sais pas. Mais, sur le DMP, je rappelle une chose sur le DMP. Hein, le dossier pharmaceutique aussi, c'est pareil. Il y a des authentifications. D'abord, il faut l'autorisation du patient pour accéder aux données. Il y a des authentifications. Les cartes CPS dans les établissements de santé sont gratuites et sont normalement distribuées gratuitement par les agences régionales de santé. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas, et je dirais que quand on a des systèmes déjà qui se déconnectent jamais hein, et qui font que quelqu'un peut venir sur votre poste de travail et accéder aux données que vous aviez, c'est déjà intolérable. Mais c'est totalement intolérable que vous n'ayez pas à vous loguer avec votre carte professionnelle de santé, et ça, il faut le demander, c'est votre hôpital est en tort, il fait une faute, il ne les respecte pas, il y aurait une réclamation à la CNIL, il ferme tout de suite. Hein. Non, c'est pas normal du tout. Voilà, vous devez pouvoir. Après, il y a des problèmes à résoudre. Alors, un dernier point sur la confidentialité des données, et ça rejoint un peu la transparence. Aux États-Unis, on a accès aux prescriptions individuelles des médecins. Hein, il y a une étude qui est sortie la semaine dernière dans le JAMA, où ils peuvent faire des corrélations entre les liens d'intérêt et les prescriptions, et voir que les oncologues, par exemple, prescrivent plus facilement les biothérapies qui sont encore protégées par des brevets que les biosimilaires, et que les prescriptions augmentent entre les... C'est ce qui est sorti la semaine dernière. Il y a une augmentation des prescriptions entre les oncologues qui n'ont aucun lien d'intérêt avec la firme et ceux qui ont un intérêt avec la firme qui... c'est impressionnant de voir ces résultats-là. Et donc, nous, on n'a pas accès à ça aujourd'hui. On est très en retard. On n'a pas accès aux données de prescription médicamenteuses des médecins. Sauf dans les caisses. Moi, j'y ai eu accès dans le cadre de missions avec les caisses. Et on peut faire des outils de restitution pratique qui sont drôlement intéressants, qui sont très appréciés par les médecins.
Qui souhaite encore intervenir ? Voilà, il est midi et demi. On arrive au terme de cette matinée qui, j'espère, apporter aux uns et aux autres un petit peu d'informations, un petit peu de connaissances supplémentaires et que nous serons peut-être un petit peu mieux armés pour nous positionner dans la société et puis surtout dans notre l'exercice professionnel, je dis ça, moi, je n'en ai plus guère et même plus du tout, mais heureusement, il y a encore ici des jeunes qui travaillent. Merci à tous d'être venus. Je voudrais donner la parole à Catherine Gabart qui m'a fait une petite annonce importante parce que dans la lignée de ce que nous avons travaillé hier en particulier, la SFPG, qui est co-organisatrice de ce colloque, a prévu une manifestation.
C'est une information parce que je pense que ça peut vous intéresser les uns et les autres et relayer. La SFPG, par l'intermédiaire d'Isabelle Dupy, qui est aussi membre d'Equipe, l'Association européenne pour la qualité des soins, va organiser donc le 25 janvier 2019, le lieu n'est pas encore déterminé, un colloque francophone en partenariat avec les Canadiens sur la déprescription. Et les Canadiens particulièrement s'intéressent beaucoup à la part de la décision partagée avec le patient, etc. Donc voilà, c'est un travail qui est en œuvre, c'est tout neuf, hein, la date a même été fixée il n'y a pas longtemps, mais je pense que ça peut intéresser un bon nombre d'entre vous et vous y serez invités. Et puisque vous êtes participant ici, la SFPG a vos adresses mail, donc ne soyez pas surpris si vous recevez des informations et vous y serez les bienvenus.
Merci beaucoup. D'ici janvier 2019, il va faire beau. Donc, merci encore à tous. Bon retour dans vos provinces, pour ceux qui viennent de province, et j'espère que vous pouvez rentrer dans de bonnes conditions. Et puis, à la prochaine fois, dans quelques semaines, je pense que les actes de ce colloque seront sur la table. Merci beaucoup.